Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Vous auriez pu rester avec nous parce que je suis sûr que c'est un sujet qui vous intéresse.
Je vous écoute.
La majorité pénale à 15 ans. Xavier Bertrand, vous le savez, candidat pour l'Élysée en 2022, veut en finir avec, dit-il, l'impunité des délinquants, notamment celle des mineurs, par la multiplication des centres éducatifs fermés, le placement sous bracelet électronique et la révision complète du code pénal des mineurs ou l'instauration de la majorité pénale à 15 ans. Aujourd'hui, elle est à 18 ans, je le rappelle. De 16 à 18 ans, a priori, on a une peine normale, sauf excuse atténuante de minorité que le juge peut décréter. Dominique, vous êtes avocat.
Oui.
Je n'ai pas dit de bêtises.
Vous n'avez pas dit de bêtises, bon. C'est exactement cela.
D'accord. Donc, la majorité pénale, de ce fait, elle est à 16 ans ou à 18 ans aujourd'hui ?
Elle est à 18, mais de 16 à 18, vous avez votre peine qui peut être divisée par deux, ou vous pouvez être jugé comme un majeur si le juge le décide.
Et de 13 à 16 ans, on est d'accord que là, c'est la moitié de la peine, quoi qu'il arrive.
On est tout à fait d'accord.
D'accord. Bon, donc le changement, ce serait effectivement à 15 ans, puisqu'on est entre 13 et 16 ans, à 15 ans, il y aurait une majorité pénale qui soit mise en place. Pourquoi vous dites que ça servirait à rien ?
Ben, ça ne servirait à rien parce que entre 16 où c'est possible et 15, il y a vraiment un tout petit delta. Et en tout état de cause, j'allais dire, je renvoie les juges à leur responsabilité à compter de 16 ans. C'est-à-dire que concrètement, il y a trop peu de peines pour les majeurs qui sont appliquées aux jeunes mineurs de 16 à 18.
Ce que vous voulez dire, déjà, c'est que l'excuse atténuante de minorité est toujours retenue par le juge entre 16 et 18 ans.
Je ne vais pas faire de généralité en disant toujours, mais les trois quarts du temps, oui.
Mais on a des stats là-dessus, parce que tout à l'heure, madame, la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, disait il n'y a pas de stats qui prouvent, par exemple, qu'il y a plus aujourd'hui de violence chez des gosses de 15 ans qu'en 1945.
Non. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que la délinquance totale des jeunes a diminué depuis les années 2000. Elle représentait à peu près 20% de la délinquance totale en 2000, et aujourd'hui c'est 13,5%. Donc on sait que la délinquance...
Ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est en pourcentage. Ce qui m'intéresse, c'est quand même en valeur.
Oui.
Parce que si dans le même temps la délinquance a augmenté, vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr, je comprends.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de cas en valeur, à l'unité, si j'ose dire.
Alors, voilà. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il y a actuellement 850 jeunes en prison, ce qui est beaucoup, et que... Vous n'avez pas les stats, mais enfin, 85% ne récidivent pas à leur majorité.
Bah écoutez, je vous écoute,
mais alors... La justice, telle qu'elle est là, elle est quand même relativement efficace, on peut crier haro sur la justice, mais on a une réalité chiffrée qui est celle-là.
Bon, vous êtes avocat, par exemple, vous défendez souvent des très jeunes gens, ça vous est arrivé de...
Oui. Bien entendu.
Alors, le profil, mais par exemple, pas dans un drame comme ce jeune garçon de 14 ans qui a poignardé une jeune fille de 17 ans. Ça ne vous est jamais arrivé.
Non, c'est rarissime. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire une loi pour un fait divers. Parce que ça, concrètement, ça, c'est vraiment rarissime. Les choses qu'on a, c'est du petit trafic de drogue ou des petits vols ou des coups et blessures volontaires.
Bon, vous êtes avocat, vous avez 50 ans. Depuis que vous plaidez, vous ne trouvez pas que ceux que vous défendez sont de plus en plus jeunes ?
Non. Je n'ai pas du tout cette impression. J'avais déjà les mêmes tranches d'âge quand j'ai commencé à exercer en 1997, vous voyez. Donc, je ne vois pas du tout ça. Il y a, en revanche, un peu plus de violence. Il est clair que les violences aux personnes, des mineurs, ont augmenté.
Ah, donc les jeunes parce que c'était le débat qu'on avait avec cette secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
Oui.
Moi, je disais... un jeune en 2020 de 14 ans n'est pas le même qu'en 1945. Bon.
Oui.
Et cette dame répondait, il n'y a pas de statistiques qui étayent ce que vous dites.
Mais il n'y a pas de statistiques, mais j'allais dire d'expérience, on le voit.
Me semble-t-il aussi, et c'est pour ça qu'on a le sens.
Constater, c'est que je n'ai pas en proportion un nombre plus important de mineurs, je n'ai pas en âge des mineurs plus jeunes. En revanche, là où il y avait des vols sans violence, il y a de plus en plus de vols avec violence. Bon, et puis, il y a des nouvelles infractions, c'est les harcèlements sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, qui effectivement viennent renforcer les statistiques.
Bon, bah écoutez, merci pour ces témoignages, parce que ça, c'est intéressant. Vous avez une expérience, forcément. Mm-hmm. Vous êtes sur le terrain et votre expertise est audible. Et donc, je vous en remercie grandement, Dominique.
Mais il n'y a pas de quoi, je vous remercie.
Merci à vous. Je salue Greg Carr de Nice, c'est lundi.
Bonjour à tous, bonjour Pascal.
Vous vous souvenez de cette petite chanson qu'on a émise, c'est lundi?
Très bien, bien sûr.
Vous pourrez la réécouter.
Oui, je pourrais la sortir le lundi en priorité, bien sûr.
Vous avez passé un bon week-end?
Oui, merci, ça va. Vous aussi?
Écoutez, oui, ça aurait pu être mieux.
Ah, que s'est-il passé?
Je ne vous le dirai pas, mais ça aurait pu être mieux.
Bon.
Ah, mais il est 13h07. Ah, donc, la pause.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est lundi.
Vous savez que des personnes sont venues en régie pour nous dire, mais qu'arrive-t-il à Pascal? Pourquoi a-t-il ce coup de mou? Alors, on peut, en antenne, vous m'avez dit que votre fiancé n'était pas avec vous ce week-end et c'est pour ça que vous étiez un petit peu triste. Je suis obligé de raconter. Mais rassurez-moi, ça n'a pas de rapport avec le fait que les 10 km soient enlevés et qu'elle soit partie.
Non, c'était tout à fait exceptionnel. Salut Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir au standard. Faut-il abaisser l'âge de la majorité pénale à 15 ans, comme le propose Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle? Peut-on être traité comme un adulte à cet âge? Sophie Legrand, juge des enfants et secrétaire générale du syndicat de la magistrature, était l'invité de RTL Midi.
Ce qu'on constate sur la délinquance des mineurs depuis de nombreuses années, c'est qu'elle reste plutôt stable. Certes, il y a plus de mineurs mis en cause aujourd'hui qu'en 1945, mais il y a aussi plus de majeurs. Si on parle en termes de proportion, on n'a pas plus de mineurs qui sont aujourd'hui en train de commettre des actes de délinquance. Mais en réalité, il n'y a pas de besoin réel de réformer cette justice des mineurs. C'est non seulement pas nécessaire, mais c'est surtout délétère d'avoir de telles idées. Un enfant n'a pas la maturité d'un adulte, n'a pas la même construction psychique, et il est normal d'en tenir compte dans la décision qu'on va rendre.
Bien sûr, il faut abaisser la majorité pénale, demande Michel sur la page Facebook de l'émission. Les enfants, les adolescents ont changé. 12 ou 13 ans serait même plus réaliste dans la société actuelle, hein, rajoute Caro. Regardez cet ado de 14 ans qui a poignardé Marjorie, 17 ans, vendredi à Évry-sur-Seine pour Ange. Les mineurs se moquent totalement de la justice, et je ne parle même pas des parents. Marie parle d'un effet d'annonce. Il faut faire piller les parents qui sont responsables, taper dans les aides.
Ce qui m'amuse toujours, c'est combien l'idéologie dans ces débats, on en fait ce qu'on en veut. On vient d'entendre cette dame du syndicat de la magistrature qui dit la psychologie d'un enfant n'est pas la même, évidemment. Bon. Mais en revanche, dans le même temps, dans notre société, quand un enfant de 6 ans aujourd'hui ou 7 ans explique qu'il est né garçon mais il se sent fille, alors là, il faut l'écouter. Là, faut l'écouter. Il a 7 ans et c'est quasiment une parole divine. Et s'il veut changer de sexe à 6 ans ou 7 ans, ben, faut peut-être prendre en compte cela. Mais en revanche, après, s'il a tué quelqu'un, il dit, ah ben non, là, c'est pas du tout la même psychologie et il est peut-être pas encore complètement, si j'ose dire, fini sur le plan du cerveau, du psychisme. C'est assez intéressant de ce point de vue-là, notre société. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit, vous habitez Clermont-Ferrand.
Tout à fait.
La question du jour, est-ce qu'il faut abaisser la majorité pénale à 15 ans? Qu'en pensez-vous?
Alors moi, je serais assez pour, hein, mais je ne pense pas que ce soit le point central. Moi, le point central, c'est de dire que je suis totalement atterré par les propos de la juge et de l'avocat qui a précédemment parlé. J'allais dire qu'il y en a marre de cette psychologie au yaourt, qui fait en sorte de surprotéger l'enfant et de nous dire qu'il y a des statistiques qui montreraient que finalement c'est moins pire qu'on pense, etc., etc. Il y a des gens qui sont sur le terrain, ce qui n'est pas mon cas, hein. Moi je n'ai pas de mineur comme étudiant, mais ce sont les policiers. Et les policiers, vous les écoutez tous dire que plus ça va, plus les jeunes sont des délinquants et plus l'âge s'abaisse dans la délinquance. Et moi j'ai un exemple. Cet assassin là, de 14 ans, on va pas me faire croire qu'il avait besoin d'aller prendre un couteau et d'aller régler son compte à une jeune fille. Il l'a fait en pleine conscience. Et quand vous prenez un couteau et que vous visez le torse, vous avez envie de tuer quelqu'un, je suis désolé. Si vous voulez pas le tuer, vous lui mettez un coup de couteau dans la cuisse, par exemple. Hein. Donc là, il n'y a aucune excuse. Alors maintenant, on va nous dire qu'il ne voulait pas, que c'était une bagarre. C'est quoi une bagarre d'un gamin de 14 ans qui est déjà signalé au service de police avec une petite qui a son âge? Il faut arrêter cette psychologie de bisounours. hein, de ces sociologues un peu gauchos qui sont là pour surprotéger le mineur. À 14-15 ans, ils sont devenus pleinement conscients de ce qu'ils font. Je suis désolé. Et il y a quelque chose d'important, peut-être.
Oui, mais alors à ce moment-là, faudrait qu'ils votent, monsieur Raphaël.
Non.
Si vous me dites qu'ils sont pleinement conscients de ce qu'ils font, on fait le droit de vote à 15 ans.
Non, Giscard a déjà fait une connerie avec le vote à 18 ans.
Non, mais là, faut être cohérent.
Non, mais ça n'a rien à voir. Je suis désolé, ça n'a rien à voir.
Mais pourquoi ça n'a rien à voir ?
C'est parce que pénalement, c'est pénalement.
Parce que tu sais ce que tu fais pour tuer quelqu'un, donc tu saurais ce que tu fais pour élire quelqu'un ?
Non,
je suis votre raisonnement.
Non. Moi, je vous dis pénalement, je ne vous dis pas politiquement. Pénalement, les jeunes de 14-15 ans et les mieux placés, je suis désolé, c'est pas les juges, c'est pas les avocats, c'est les policiers. Et les policiers, interrogez-les et vous verrez ce qu'ils vous diront.
Vous êtes prof de... Non, mais vous avez raison là-dessus. Les policiers disent, les policiers disent tous, on a en garde à vue des comportements qu'on n'a jamais vus il y a 15-20 ans. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'entendais la juge, je me disais, ou elle est déconnectée, ou c'est une idéologue, pourquoi pas, elle fait de l'idéologie, et pour elle, quoi qu'il arrive, même si la réalité vient percuter son idéologie, elle considère que... Et pourquoi pas d'ailleurs, moi je lui fais pas simplement le reproche, pourquoi pas.
Elle considère
que les enfants, un enfant de 13 ans, 14 ans, 15 ans, faut, quoi qu'il arrive... ne pas les juger comme des gens de 18 ans, donc elle nie une réalité. Mais là où vous avez raison, c'est que les policiers disent on a en garde à vue des comportements qu'on n'a jamais vus il y a 20
ans,
il y a 30
ans. Tout à fait, le contraire. Et puis il y a aussi autre chose que Bertrand a dit intéressant, et vous en parlez souvent, que ce soit là ou sur CNews, les centres d'éducation fermés, ils sont quasiment ralentis, voire fermés. Il faut les remettre en place, complètement, avec un encadrement militaire de la jeunesse. C'est pas moi qui l'ai dit en 2007, c'est Ségolène Royal. J'ai pas une sympathie particulière pour cette femme, mais les centres d'éducation fermés, encadrés par l'armée, avec des règles très strictes et des châtiments corporels s'il le faut en cas de faute.
Oui, bah, Raphaël, n'en rajoutez pas, parce que déjà vous êtes un poil, le châtiment corporel, on va peut-être laisser ça de côté.
Et quand ça dérive, il faut, vous savez, quand ça dérive, il faut leur réapprendre à vivre à ces jeunes. Et je pense que la majorité pénale, c'est bien à 15 ans, mais au-delà de la prison, etc., il ne faut surtout plus la prison.
Vous n'êtes pas policier, Raphaël fermée.
Non, j'aurais bien aimé l'être.
Vous êtes quoi, professeur de droit, c'est ça ?
Eh oui.
Bon, et vous êtes manifestement pour une discipline très grande dans la société.
Une application stricte et très stricte de la loi pour les délinquants et les criminels, voilà.
Je lis ce qu'a dit Xavier Bertrand pour casser le phénomène de bande. J'entends revoir complètement le code pénal des mineurs, instaurer la majorité pénale à 15 ans, mais aussi scinder les fonctions entre les juges chargés de la protection des mineurs et ceux chargés de la justice pénale des mineurs délinquants. Que va changer la majorité pénale à 15 ans, pour certains spécialistes de droit pénal, pas grand-chose, puisqu'elle existe déjà à 16 ans, je le rappelle. Donc je vous donne argument contre argument, et chacun pourra se faire son opinion. Pour les syndicats de police, évidemment, les peines ne sont pas assez appliquées, et sur ce dernier point, Xavier Bertrand voudrait multiplier par 3 les centres éducatifs fermés destinés aux mineurs. Merci beaucoup, Raphaël.
Au revoir. Et allez le Clermont Foot, Pascal, quand même.
Ah mais Clermont, vous montez là ?
Ben évidemment qu'on monte.
Ah
et
oui,
on va, vous allez voir. Eh oui, donc j'aimerais
que
le spécialiste
du
foot... Non, ça va être solutionné.
Vous allez jouer à Saint-Étienne ?
Non, Saint-Étienne ou Marcel Michelin, les rugbyman, au secours des footballeurs.
Bon, bah écoutez, bonne chance à vous. Hein, c'est pas la première fois, de toute façon, que Clermont sera en Ligue 1.
Clermont ça n'aurait jamais été en Ligue 1. Ah, jamais. Jamais monté.
Je pensais que vous
étiez
il y a quelques années en Ligue 1.
Non, c'est là l'exploit. On a frisé souvent, mais on n'y a pas.
Eh bien écoutez, bravo, voilà. Et félicitations. Clermont-Ferrand, Ligue 1, ça pourrait être une information du jour, hein. Vous pouvez nous appeler sur ce sujet. Voilà. Monsieur Caranoni, vous êtes...
Ni supporter de football, ni supporter de rugby.
Non mais vous êtes ce que vous aimez, c'est la trottinette.
Voilà, oui c'est ça. Voilà, réduisez-moi à la trottinette.
L'homme à la trottinette. Bon. Eh bien la pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Nous ne faisons plus assez d'enfants. Il manquerait 40 à 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement des générations. François Bayrou plaide pour un pacte national pour la démographie afin de sauver le modèle social français. Olivier Bost nous en disait plus ce matin dans son édito.
Il faut une politique familiale ambitieuse et lisible. Et qu'il faudra aussi accueillir des personnes d'autres pays. Accepter accepter une immigration dans des proportions raisonnables et acceptables. Voilà de quoi se distinguer de la tendance actuelle et bien sûr de faire débat.
Avoir plus d'enfants, accueillir des personnes d'autres pays. Que pensez-vous de ce pacte proposé par François Bayrou? Faut-il augmenter l'immigration? Eh bien, on accueille déjà suffisamment, écrit Aurélien sur nos réseaux sociaux. François Bayrou vit dans le monde des bisounours pour Gabriel. Karine s'interroge. Certains nous disent qu'il faut penser à la planète, qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde, que la période est trop dure pour avoir un enfant. Mettez-vous d'accord pour Thierry? Ah, quand on veut des enfants, il faut avoir les moyens de les élever, les éduquer. Christian, tiens, à 6 enfants, c'est un choix. On ne les fait pas pour les allocations. Nous ne sommes pas des profiteurs. Nos enfants ne sont pas des délinquants. Je travaille, ce modèle est donc possible. Partagez-vous ces avis. 32-10. 25% des plus de 75 ans n'ont pas reçu la première injection d'un vaccin contre le Covid-19. Une personne sur 4 de cette catégorie d'âge est concernée. Pour Nico, les médecins traitants doivent réexpliquer à leurs patients le bénéfice du vaccin. Après, rajoute William sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Certains ne sont pas entourés, hein, personne ne les incite. Alors vous faites partie de ces plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinés. Venez témoigner dans l'émission.
Laurent, au standard, pour le moment, n'appelle que le sujet de la majorité.
Sur la majorité pénale. Faut-il abaisser la majorité?
C'est pour ça que vous avez essayé de relancer d'autres sujets, parce qu'on n'aime pas être mono-sujet, bien sûr. Mais c'est vrai que vous êtes très nombreux sur la majorité pénale à 15 ans. Ça fait parler, bien évidemment que ça fait parler. Quand on entend qu'un gosse de 14 ans a poignardé une jeune fille de 17 ans, peut-être à cause des réseaux sociaux, peut-être pour une bagarre sur Snapchat, évidemment, ça fait réagir. Mathéo, bonjour, étudiant en droit dans le Calvados.
Bonjour Pascal.
Bonjour et merci d'être avec nous. Votre sentiment?
Bah, mon sentiment, c'est qu'effectivement, on va dans la bonne direction. Si des candidats à la présidentielle proposent ce genre de choses, c'est qu'on est déjà sur un constat assez partagé. Bon, bien sûr, il y a les gens hors sol, hein, les gens qui vivent dans les aéroports, hein, comme je crois que c'est Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature. Bon, ces gens-là n'ont aucune connexion avec la réalité. Lorsqu'elle dit que la délinquance est la même il y a 30 ans qu'il y a aujourd'hui, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Effectivement, la délinquance, il y a 30 ans, je pense que c'était un vol de mobylette. Peut-être que c'était une bagarre, un échange de coups de poing, une nuit au newf et c'était tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de bagarre. Aujourd'hui, c'est le canif, si ce n'est pas le pistolet. Aujourd'hui, ce n'est pas un vol de sac à main, c'est un vol à l'arraché. On va pousser une petite dame dans le métro. La délinquance, ah, peut-être que les chiffres sont les mêmes. Mais quels sont-ils, ces chiffres-là, et qu'est-ce qu'ils représentent derrière? C'est juste scandaleux qu'il y ait des gens aujourd'hui qui soient capables de se dire ça. Et puis, si je peux poursuivre un tout petit peu, vous disiez avec le président auditeur, avec qui je suis exactement sur la même ligne, il n'y a pas besoin d'être... que ce sont les policiers qui constatent tout. Mais il n'y a pas besoin d'être policier. Vous êtes pompier, vous êtes tenancier d'un bar tabac, vous êtes concierge des immeubles. Je vous assure que vous la prenez, la violence, mais tous les jours, et vous n'avez même pas le pouvoir d'avoir un flingue à la ceinture pour essayer d'être intimidant. Là, c'est encore autre chose. Donc la majorité pénale, bien évidemment, et c'est quelque chose... Pensez à la Suisse, hein. Elle est à 7 ans, la majorité pénale. Ils pensent la rehausser à 10 ans. La Suisse a été des précurseurs, notamment d'un point de vue législatif, et ce serait peut-être le temps d'aller se recaler un petit peu avec la réalité. Parce que le réel, la réalité, on ne l'a plus du tout dans les yeux de la justice actuellement.
Non, mais là où je peux vous rejoindre, ce qui est toujours sidérant, parce que vous dites déconnecté, non, c'est l'idéologie qui gouverne les idées de certains. Et quand,
pas de certains, de tous.
Bah, pas de tous, il y a des gens qui sont pragmatiques, tout le monde n'est pas idéologue.
Non, mais quand Emmanuel Macron a sorti de son chapeau la suppression de l'ENA, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'il oublie que dans son gouvernement, il y a un ministre, Éric Dupond-Moretti, qui plaidait surtout, et avec de fortes raisons, la suppression de l'ENM. Pourquoi? Parce que comme toutes les grandes écoles, ça crée un effet de casse, ils ont lu les mêmes bouquins, ils ont eu les mêmes profs, ils ont les mêmes idéologies. Actuellement, un juge qui a les yeux en face des trous, c'est rare à trouver.
En tout cas, là aussi où vous avez raison, c'est que tous ceux qui sont au contact d'enfants... profs, éducateurs sportifs, rapportent, vous parliez de concierges d'immeubles, etc., rapportent que certains, pas tous, mais il y a une libération de la parole, il y a une manière de se comporter qui n'a plus rien à voir avec celle qui était la norme en 1945. Et ce qui est sidérant, c'est que lorsque quelqu'un vient dire, effectivement, bah, c'est la même chose, un gosse de 15 ans, c'est le même qu'il y a 75 ans. Ben non, il ne parle pas pareil, il n'est pas aussi bien élevé qu'il y a 75 ans, il n'est pas aussi respectueux qu'à 75 ans sans doute. Le rapport à l'autorité n'est pas le même, évidemment. Évidemment.
J'aimerais dire deux choses, moi, Pascal, c'est que c'est peut-être pas forcément les lois qu'il faut changer, mais c'est leur application. J'invente pas l'eau chaude en disant ça, on le dit depuis des années, et qu'il faudrait peut-être simplement commencer par appliquer nos textes. Et moi, j'aimerais bien aller plus loin, ce sera mon deuxième point, que Xavier Bertrand. C'est pas forcément la législation sur la majorité ou la minorité pénale. Là, effectivement, tout le monde s'entend. Mais c'est la loi sur les bandes. Vous savez, sur les bandes, c'est l'impunité. Moi, si je voulais tabasser quelqu'un, je prendrais le soin d'amener 2-3 copains à moi, parce que je sais très bien que même si c'est moi qui donne le coup mortel, bah, on ne saura pas, et tout le monde, vu qu'il y a la loi du silence, hein, dans une bande, il y a une omerta, personne n'y vulgue rien, eh bien tout le monde sera acquitté. La loi sur les bandes, ça doit être tous coupables. Ça doit être juste comme ça. Parce qu'aujourd'hui,
c'est ce que demandent certains, effectivement, que ce soit la violence en réunion, que celui qui a frappé un coup ou celui qui n'a pas frappé un coup soit puni de la même peine. Certains le demandent, mais ça va contre l'individualisation des peines. Hein, ça heurte aussi, là on est encore dans de l'idéologie. Mais là où l'argument que vous dites s'entend, c'est que moralement, celui par exemple qui a viré Châtillon était présent avec cette bande, même s'il n'a pas lancé un cocktail Molotov, mais qui est à côté de celui qui lance un cocktail Molotov, bah, on peut considérer que sa responsabilité morale est la même.
Elle est totale. L'apologie peut-être d'une certaine forme de virilisme qui n'est pas du tout à la mode. Mais je pense qu'à l'époque, moi j'ai des récits de mon père qui a grandi en banlieue, bah, quand il y avait une empoignade, et bah, c'était le gars costaud de la bande qui allait contre le gars costaud de l'autre bande. Il y avait une bagarre. Bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus noble, mais ça se faisait. Aujourd'hui, ce sont des bandes de petites hyènes, des mecs gaulés comme des ficellos qui donnent des coups de pied à 3 mètres de distance en rigolant, mais ils sont 15 contre un seul. Ce sont des petits lâches. Des petits lâches contre qui il est facile d'agir et il est grand temps d'agir.
Bah écoutez, Mathéo, en tout cas, c'est votre avis. Merci beaucoup pour ce sujet qui est... déchaîne toujours un peu les passions, disons-le, et il peut avoir des paroles excessives, forcément.
Merci Pascal.
Mais il faut savoir raison garder, comme disait l'autre, et avancer sans nier la réalité. Il est 14h, il est 13h28 exactement. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Toujours ce sujet de la majorité pénale à 15 ans. Nous sommes avec Sophie qui est gendarme. Bonjour Sophie.
Bonjour Pascal.
Et votre alors on a eu tout à l'heure le témoignage d'un avocat. C'est intéressant d'avoir le témoignage d'un policier parce que vous êtes en contact direct avec ces jeunes gens.
Oui, tout à fait. Alors je suis pas policier, hein, je suis gendarme.
Gendarme, oui.
Bon, c'est le même.
Vous avez raison. Vous avez raison.
Non, voilà, moi je voulais dire qu'aujourd'hui, on le voit très bien que les gamins, que ce soit de 10 à 18 ans, ils n'ont plus peur de rien. On le voit, ils viennent à l'affrontement, ils nous narguent, et ils savent très bien qu'il n'y aura pas de suite judiciaire pour eux parce qu'ils sont, gosses.
Mais ça, c'est nouveau. Depuis combien de temps vous êtes gendarme ?
Moi, ça fait 20 ans que je suis gendarme.
Bon, est-ce que vous avez... aperçu.
J'ai vu une différence, malgré que je sois encore jeune dans le métier et tout ça, mais j'ai quand même déjà constaté une petite différence, c'est-à-dire c'est de plus en plus de la provocation envers les forces de l'ordre et envers les pompiers ou même n'importe quel professionnel. C'est de la
mais oui, mais la provocation, elle est, comment dire, elle est répréhensible, cette provocation ? Elle tombe sous le coup de la loi ou c'est simplement une attitude générale ?
Alors, au début, c'est de la provocation qui n'est pas répréhensible par la loi, mais comme il ne se passe rien, c'est-à-dire que comme les parents n'agissent pas, comme la police et la gendarmerie ne peuvent rien faire, bah, ils gagnent en confiance et ça va crescendo. Et ensuite, on en arrive à de la violence, à de l'outrage, à des insultes.
Ça vous est arrivé ?
De plus en plus grave. Oui, ça nous arrive.
Mais vous, par exemple, c'est toujours intéressant les exemples. On est aujourd'hui à la mi-mai. Est-ce que depuis le 1er mai, par exemple, vous avez été ou insulté ou violenté
Les insultes, c'est quotidien. Hein, c'est...
Par des jeunes ?
Ah oui.
De 13, 14, 15 ans ?
Oui, tout à fait, oui.
C'est quotidien ?
Pas tous les jours, mais c'est, dans une semaine, ça peut être très récurrent, oui.
Et là, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là quand on vous insulte ?
Eh ben, on essaie d'identifier le jeune et puis ensuite on fait une procédure, mais sur le moment on peut pas faire grand chose parce que on sait très bien que selon où on se trouve, ça peut dégénérer.
Mais là vous êtes gendarme dans le Morbihan.
Oui.
C'est quand même pas les régions de France où il y a le plus d'insécurité ou le plus de problèmes.
Non. Ah non, ça c'est sûr, mais ça n'empêche pas que. Chaque force de l'ordre à son niveau dans sa ville voit qu'il y a une dégradation des conditions de travail. Alors c'est sûr qu'on n'est pas à Paris, on n'est pas en Île-de-France ou dans la banlieue lyonnaise ou autre. Enfin, je prends les exemples là, mais il y en a d'autres. Hein. Mais chacun à son niveau voit que c'est de pire en pire.
C'est tous les enfants de cette classe d'âge-là, selon vous, ou c'est quand même lié à un phénomène social ou à un phénomène de quartier?
Ah, c'est plus les quartiers quand même. Hein. Alors, je dis pas que c'est que les quartiers, hein, parce que c'est comme tout. Hein, y a des petits délinquants et puis des effrontés partout. Mmh. Mais c'est quand même plus accentué quand on est dans des quartiers, dans des cités, dans tout ça, quoi.
Bah écoutez, merci Sophie de...
Et puis qui sont soutenus.
Non mais c'est... Alors il y a évidemment, comment dire, dans ces quartiers, et c'est pour ça qu'il faut essayer toujours de comprendre, il y a des difficultés d'éducation, parce que parfois, évidemment, quand t'es un gosse de bourgeois, élevé par un père, une mère, un père qui a un job, une mère qui travaille également, une famille structurée avec des enfants, des frères et sœurs, des grands-parents, etc., parfois, dans les quartiers, tu as des familles qui ont explosé, où la mère est avec 3, 4 ou 5 enfants et elle les élève toutes seules, le père n'est pas là, l'argent n'est pas là non plus. Vous voyez ce que je veux dire, le phénomène social, il existe fortement. C'est pas par nature, on n'est pas dans un quartier moins bien élevé que dans un quartier bourgeois.
Ah non, mais tout à fait, mais c'est sûr que si les grands frères, entre guillemets, ne montrent pas l'exemple aux petits et qui continuent, eux, à faire leurs agissements, bah les petits, ils se disent bah de toute façon, eux ils font ça, bah moi aussi je vais le faire, de toute façon on risque rien.
Bon, il avait 14 ans, hein, celui qui a tué Marjorie. Il était en classe de 3e. Il dit ne pas avoir voulu la tuer. Il est mis en examen pour meurtre et il est donc placé pour le moment 6 mois en détention provisoire. Voilà ce qu'on sait à l'heure du déjeuner sur ce jeune homme, si j'ose dire, de 14 ans. Hein, 14 ans. Ouais. Et vous avez sans doute entendu la mère de la victime, qui est la sœur de la victime d'ailleurs ce week-end, qui avec beaucoup de dignité, hein, beaucoup de recul, même beaucoup de distance parfois, à parler de ce qui se passe dans ces quartiers, de ces jeunes-là, de leur combien ils sont accros aux écrans et aux réseaux sociaux. Et combien...
En fait, ils ne se rendent pas compte des conséquences qu'il y a dans la vie de tous les jours.
Mais bien sûr.
Mais le problème, c'est que si on ne leur dit rien, parce qu'on dit oui, ils n'ont pas conscience, mais ça continuera.
Merci Sophie, merci de votre témoignage vraiment, et bon courage du côté du Morbihan. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
J'ai une nouvelle question à vous poser. Faut-il rouvrir les boîtes de nuit dès le 30 juin? C'est la demande d'une quinzaine de maires de stations balnéaires dans une tribune. Parmi les signataires, Pierre-Alexis Blévin, maire de Pléneuf-Val-André dans les Côtes-d'Armor.
Alors ma commune accueille 40 000 personnes l'été. On a un risque cet été, si on ne fait rien, d'avoir tous ces jeunes sur le domaine public. Alors on aura des fêtes sauvages, des soirées clandestines, dans les maisons, sur les plages, dans les parcs.
Autre signataire, le maire de Saint-Tropez, La Baule-Royan, Biarritz ou encore La Grande Motte, un texte soutenu par le DJ Jean Roch, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal était l'invité de RTL ce matin.
Dès qu'on pourra rouvrir les discothèques, on le fera.
Vous ne pouvez pas leur donner de réponse là.
Il y a une clause de revoyure qu'on a fixée à la mi-fin juin, donc à la mi-fin juin, on pourra dire aux discothèques ce qu'il en est.
Faut-il rouvrir les boîtes de nuit dès le 30 juin? Nous vous attendons au 32-10. Quelle fin de saison en Ligue 1? Le championnat reste indécis pour le titre. La Ligue des Champions, la Ligue Europa et la place de barragiste. Lille conserve un point d'avance sur le Paris Saint-Germain à une journée de la fin. Lillois, dans quel état d'esprit êtes-vous après le match nul 0-0 contre Saint-Etienne? Écoutez l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier.
Le contenu de notre match, quand on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. Et on a ce dernier match, sachant que ça sera une finale.
Quand on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. Très belle phrase de Christophe Galtier.
Il a raison, Christophe Galtier, c'est un bon entraîneur. Nous sommes avec Charles, qui habite Montpellier. Bonjour Charles, et on reste sur cette question de la majorité pénale.
Oui, eh ben, écoutez, tout à fait.
Parce que ça vous passionne.
Eh bien écoutez, a priori oui, ça a l'air de passionner beaucoup de monde et de toute façon je pense que c'est un sujet d'actualité. Moi je suis tout à fait d'accord pour l'abaissement justement, pour revoir cette ordonnance de 45, parce que je suis d'accord avec vous Pascal, nos mineurs, les mineurs de maintenant ne sont plus les mêmes que les mineurs.
Et ça me paraît là où on est parfois, ça me paraît tellement évident qu'un mineur, quoi, qu'un gosse de 15 ans n'est pas le même en 45 qu'aujourd'hui, que je me demande même... Comment on peut soutenir le contraire, pour tout vous dire?
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des actes de violence gratuite qui n'avaient pas lieu il y a des décennies de cela. Lorsqu'on filme des bastons sur les téléphones portables, de façon tout à fait gratuite, lorsqu'on assassine à cet âge-là, lorsqu'on fait des viols en réunion à cet âge-là, je veux dire, à un moment donné, si on n'a pas compris que le niveau de barbarie, excusez-moi, j'utilise un grand mot, mais il faut appeler un chat, le niveau de barbarie a augmenté dans notre société, la violence gratuite a augmenté. Et je pense que la grande maladie de la justice, c'est qu'elle n'est plus dissuasive. Voilà, alors c'est ça le problème. Et lorsque la porte-parole du syndicat de la magistrature indexe son avis sur la justice des adultes, vous voyez, pour parler de la justice des mineurs, elle est complètement à côté de la plaque, elle est dépassée. Parce que la justice, dans notre pays, elle dysfonctionne. Il y a le sursis, les aménagements de peine, les peines non appliquées faute de place dans les prisons. Je veux dire, ça dysfonctionne déjà chez les adultes. Comment voulez-vous que ça fonctionne auprès des mineurs ? Les mineurs, ils le savent bien. Hein, et ça, on le vit tous les jours. Après, lorsqu'on parle de statistiques, moi, ça me fait rire. Vous pensez qu'une mère qui perd sa fille va se consoler avec des statistiques qui soi-disant parlent de la baisse de la violence ou d'une violence, d'un niveau de violence qui se maintiendrait lorsqu'on est touché dans sa chair, on s'en fiche des statistiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'un meurtre dans une famille, le meurtre d'un enfant, c'est un drame. Voilà. Et ça, c'est sûr que lorsqu'on parle de statistiques, on a cette distance froide qui nous permet de à mon avis, de mal appréhender les choses. Alors, évidemment, il ne faut pas tout juger à coup d'émotion, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il y a de certain, et là, je pense être objectif lorsque je dis ça, c'est que la justice française n'est plus dissuasive. D'ailleurs, lorsqu'on a on ouvre n'importe quel journal en France, hein, et lorsqu'on lit les faits divers qui nous paraissent graves, parce qu'il y a des faits divers quotidiens qui sont de plus en plus violents, on se dit, ah là 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 là, il a été, le coupable a été arrêté, il va être condamné. Et puis en fait, la plupart du temps, la condamnation nous donne l'effet d'un pétard mouillé. Parce qu'en fait, il y a une disproportion entre la gravité de l'acte en fait et la peine encourue et la peine concrète. Voilà. Et ça, je vous dis, la justice française est malade de ça. Et nous, les citoyens, en fait, on serre les dents, hein, et on souffre tous les jours. Voilà. Parce que ça engendre justement, ça engendre de l'injustice, ça engendre de l'incompréhension et ça engendre de la souffrance. Voilà.
Merci Charles, merci beaucoup. Vous êtes le dernier auditeur sur ce thème. Faut-il abaisser l'âge de la majorité pénale à 15 ans? Je vais demander d'ailleurs à Laurent Tessier, parce que c'était une consultation qu'on avait organisée. On demandait l'avis des auditeurs. On était à 90%, je crois, des auditeurs qui avaient répondu favorablement. Je ne sais pas à combien, Laurent, nous en sommes, mais globalement, ce que nous avons écouté depuis 13 heures souhaite un abaissement de la majorité pénale à 15 ans et sans doute souhaite-t-il davantage de sévérité sur les peines.
Le chiffre est actuellement à 87%. 87% ouais. Des auditeurs sur RTL.fr qui souhaitent abaisser l'âge de la majorité pénale à 15 ans.
Alors, je le précise à chaque fois, c'est pas un sondage, c'est une consultation, un appel ou vote qui veut. Donc, faut prendre ça quand même avec des pincettes. Il est 13h45, on va changer de sujet. On va parler de François Bayrou. C'est assez étonnant parce que François Bayrou, j'ai l'impression que les gens ont compris l'exact contraire de ce qu'il a dit. Donc, peut-être qu'il s'est mal exprimé, mais notamment sur l'immigration. J'ai l'impression que les gens ont interprété la position de François Bayrou comme une volonté d'ouvrir les vannes de l'immigration. Alors, il est en train de faire marche arrière ces dernières heures, quoi, ces dernières minutes, notamment par son compte Twitter, où il précise peut-être sa pensée, mais en tout cas, on va pouvoir parler de ce sujet. Et notamment, il manque 40 à 50 000 naissances chaque année pour assurer le renouvellement des générations. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faire plus de bébés ou accueillir plus d'immigrés en France, c'est en substance ce que défend François Bayrou dans la conclusion de son rapport sur la démographie française. Si l'on veut continuer à partir à la retraite à 62 ans, mais aussi à bénéficier de la sécurité sociale et de toutes les aides versées par l'État. Le souci, c'est que je ne suis pas sûr qu'il ait dit qu'il fallait accueillir plus d'immigrés en France. Ce qu'il a sans doute voulu dire, c'est que si on fait pas davantage de bébés, on va être contraint d'accueillir davantage d'immigrés en France. Et peut-être qu'y a-t-il un hiatus sur ce qu'il a dit et sur la manière dont il a été compris. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Vous habitez la Charente. Il manque 40 à 50 000 naissances chaque année pour assurer le renouvellement des générations.
Bonne fête déjà au passage. Pascal.
Ah oui, bonne fête, c'est à Saint-Pascal, vous avez raison. Merci.
Bon, vous donc de faire des bébés, ça va régler le problème des retraites. Je suis capable du contraire. Pour régler le problème des retraites, il faut qu'il y ait des travailleurs et donc des cotisations. Donc il va nous assurer que si on fait des bébés, qu'il nous trouvera du travail à tous les bébés qui vont naître. On n'arrive déjà pas à trouver du travail pour 3 millions de personnes. Donc Monsieur Bayrou, il est comique en fait. Moi, il me fait rire. C'est une parole, une bêtise.
C'est qu'il est haut commissaire au plan. Alors, il avait un peu disparu des radars.
Il était candidat à la présidentielle aussi.
Il a le droit. Commissaire au plan qu'il est, alors il est dans son rôle puisqu'il imagine ce qu'il faut faire pour prévoir l'avenir. D'un autre côté, on peut pas prévoir le passé. C'est un peu stupide.
Elles sont bien, les idées. Tout le monde peut. Vous prenez une feuille, vous pouvez mettre plein d'idées dessus. Après, il y a la réalité. On est à l'époque où on vit, des couples qui durent des années et des années, ça n'existe quasiment plus.
Il y a des familles. C'est pas exagéré.
J'ai pas dit que ça n'existait plus. J'ai dit que ça n'existait quasiment plus. Il y a beaucoup de couples reconstitués. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Élever un enfant, c'est difficile. On est dans une situation qui est compliquée. Au niveau du travail, c'est plus que compliqué. Je comprends pas ce qu'il dit.
Puis la démographie, il est dans son rôle de commissaire au plan, vous dis-je. Il imagine l'avenir.
Son travail, donc ce monsieur est payé pour imaginer des choses.
Faire des projections. Il fait des projections.
Qu'on essaye déjà de régler les problèmes à l'instant T avant de prévoir.
Gouverner, c'est prévoir, si vous me permettez.
Gouverner, c'est promettre. Parce qu'ils font beaucoup de promesses, et puis après.
Vous n'êtes pas convaincu par ce haut commissaire au plan. Qui sert à rien, c'est ce que vous voulez dire, et qui est payé avec nos impôts. Pour faire de la démagogie bien.
Je ne vais pas faire de démagogie.
Mais vous n'avez pas tout à fait tort. À quoi sert ce haut commissaire au plan ?
On invente des titres pour placer des petits copains. Je vais t'inventer un titre. Tiens, je vais peut-être haut commissaire et je fais quoi ? Je pourrais inventer des trucs, tu nous en sauras tous les 6 mois.
Non, mais il y a un ministère pour ça, vous avez raison. Mais ce qui est drôle, c'est pour ça que...
Mais Pascal, non, vous savez à quoi il sert, en fait, Bayrou ? Il sert aujourd'hui à faire les sketchs pour Laurent Gérard. Il n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, on lui donne tout fait. Il n'a plus qu'à imiter François Bayrou, à redire ce qu'il a dit, et tout le monde a rigolé.
Là où vous avez raison, c'est que tout le monde décode aujourd'hui, parce que les gens ont une grande maturité politique. Et là où vous avez raison, c'est que le haut commissaire au plan, tout le monde devine que ce n'est pas essentiel. Voilà.
Non, ça ne veut rien dire. Et puis après, c'est une non-information pour moi. Voilà.
Merci. On a bien habillé François Bayrou. Il va être content.
Il
peut nous appeler. Il a le droit de réagir. Je pense comme vous.
J'ai peut-être tort, mais.
Ce qui est intéressant, c'est le constat quand même. Ça, le constat qu'il manque 40 à 50 000 naissances chaque année, ça s'entend.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais il manque aussi 40 à 50 000 cotisants pour payer des retraites. Et avant de faire des bébés, il faut déjà trouver du travail à ceux qui ont 18, 19, 20 ans aujourd'hui.
Merci Thierry. Vous avez des enfants ?
Oui, deux.
Bon, je vais vous poser une question qu'on ne doit jamais poser. Mais je vais quand même la poser. Parce que j'entends parfois, vous auriez 25 ans aujourd'hui, vous referiez des enfants ?
Franchement, Pascal ? Elle est super complexe, votre question. J'en sais rien.
Parfois, je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu projetterais dans ce monde des enfants ? C'est une vraie question, pardonnez-moi de le dire comme ça.
Je veux dire pourquoi je ne peux pas répondre. Parce que j'ai toujours une phrase, moi je dis, on ne peut pas répondre à quelque chose qu'on ne vit pas.
Pas faux.
Donc, j'ai pas 25 ans aujourd'hui, donc je ne peux pas vous répondre. Posez la question à un jeune qui a 25 ans aujourd'hui, demandez-lui s'il a envie de faire des enfants.
Je pose ces questions à mes enfants de temps en temps. Pour le moment, je ne suis pas grand-père. C'est tout ce que je peux dire. Peut-être que ça viendra. Mais pour le moment, je ne suis pas grand-père. Merci beaucoup, Thierry.
Je vous en prie, Pascal.
Croire en la vie quand même.
La vie est belle.
Faut croire en l'homme quand même. Faut être positif et que l'homme s'en sort toujours.
La vie est belle, elle est magnifique et le plus beau cadeau qu'elle nous offre, c'est des enfants.
Exactement. Bruno est avec nous, il habite Saumur. Bonjour Bruno, comment vous avez interprété les propos de François Bayrou ?
Oui, bonjour. Donc j'habite Saumur et je suis agent général d'assurance. Je travaille pour le premier réseau Amixion de France, pour ne citer qu'AXA, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui...
Quel est le rapport,
le rapport est simple, c'est qu'aujourd'hui je suis dans un métier où on est nous-mêmes confrontés au décès et aux naissances de nos clients. Et en effet, on voit qu'il y a de moins en moins de naissances aujourd'hui dans notre pays. La solution de Monsieur Bayrou, après, qui est de faire de plus en plus d'enfants, je ne crois pas que c'est la bonne, ni pour nous, ni pour l'ensemble de l'Europe, parce que notre vieille Europe, ben, que ce soit la France ou d'autres pays voisins, ont des populations très vieillissantes. Par contre, moi, ce qui me fâche beaucoup, c'est qu'on a eu récemment des choses déplorables avec des gens qui essayent de quitter leur pays pour des guerres et autres, et on a plein d'enfants qu'on a dans des centres en Grèce, en Turquie, à Chypre et autres, dans d'autres pays pour parquer de jeunes gamins qui peut-être auraient besoin d'une terre d'accueil et d'un avenir plus positif à leur promettre. Voilà. Donc les jeunes potentiels sont peut-être là. Alors nous, on a la chance d'être dans un bassin économique dans tout le Grand Ouest, Cholet, à Nantes. Toutes les sociétés cherchent beaucoup de salariés et n'en trouvent pas. Il y a beaucoup de boîtes d'intérim qui cherchent du monde et qui ne trouvent pas de poste.
Ah bon ? Je suis toujours étonné quand j'entends ça.
Alors,
pour
je tout
vous dire.
Pas le reste de la France, hein, mais vous avez une petite ville sur Cholet, par exemple, où je travaille. Cholet a 27 entreprises de recrutement. Pour une toute petite bourgade comme Cholet, voilà. Donc,
c'est pas une bourgade, Cholet, faut peut-être pas exagérer.
Ouais, non, c'est une ville, quoi, mais voilà.
C'est une ville, Cholet. Les Choletais qui nous écoutent.
Je connais quelques-unes de ces agences qui.
C'est une jolie ville, Cholet, voilà. En plus, c'est sympa.
Oui, c'est sympa, ouais. C'est une ancienne ville industrielle qui a su très bien se réinventer. Voilà.
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire sur les propos de François Bayrou ? Vous partagez, vous ne partagez pas ?
Moi, dans son poste, faire des bébés, je ne partage pas. Je ne pense pas que ce soit la solution. Après, aujourd'hui, accueillir des familles d'immigration, pourquoi pas. Mais alors, de les mettre dans des situations favorables et rurales et pas de les parquer, comme on a pu le faire au début des Trente Glorieuses, dans des cités qui, aujourd'hui, malheureusement, nous donnent l'héritage qu'on a mérité. Voilà, si on accueille des gens, de leur donner la vraie chance d'intégrer notre pays.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué. D'ailleurs, François Bayrou l'a dit, l'impact sur la démographie pour l'immigration n'est pas immédiat. Et ensuite, cela représente des difficultés sociales et culturelles, a-t-il ajouté. Merci beaucoup, Bruno. On va écouter le flash de 14h. Et pardonnez-moi peut-être d'interrompre cette conversation. On va la poursuivre après le flash. Greg Caronini, vous allez faire des enfants.
Bien sûr, j'en ai déjà un. J'en ferai un deuxième, j'espère.
Vous en ferez avec votre épouse.
Évidemment, avec qui d'autre ? Je ne peux pas les faire tout seul.
C'est entendu. Vous voulez nous donner un cadeau?
Oui, je voulais mettre un petit peu de sourire aussi dans cette émission, parce que pour fêter la réouverture des salles de cinéma après-demain, donc mercredi 19, eh bien RTL offre à tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne aujourd'hui 2 places pour aller voir le film Envole-moi. C'est le nouveau film de Christophe Baratier qui sort donc mercredi, avec Gérard Lanvin, Victor Belmondo. C'est pour revivre un peu les émotions du cinéma, hop. On vous offre des places. 2 places pour chaque auditeur qui passe à l'antenne.
Le flash, et on poursuivra la petite conversation.
Attendez, Pascal, pardon. On sera le 19 mercredi.
Oui.
Nous sommes le 17 aujourd'hui, mais ça veut dire que vous gardez votre chemise, puisque vous aviez parié votre chemise pour le 15 mai. C'est une bonne nouvelle. Vous ne vous souvenez pas ?
On est le 15 mai, on n'est pas ouvert le 15 mai.
Eh bien oui, donc vous gardez votre chemise, qui est une bonne nouvelle pour tout le monde.
Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, cher ami.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Le 19 mai, mais je vous signale quand même que c'est à l'extérieur, hein, c'est pas bon. On poursuivra la petite conversation avec Bruno de Saumur, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.
Il est 14h. Le flash avec Alexandre de Saint-Aignan.
Après 8 mois de fermeture et 2 reports, le parc Disneyland Paris rouvrira ses portes le 17 juin prochain. Dans un mois, la jauge de fréquentation n'est pas précisée, mais le port du masque devrait rester obligatoire dès l'âge de 6 ans. Un moment très important, selon le ministre de l'économie, à partir de mercredi, les commerces, les terrasses vont pouvoir rouvrir, même partiellement, alors que l'épidémie ralentit et que 20 millions de Français ont déjà reçu au moins une première dose de vaccin. Ce matin sur RTL, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est lui aussi réjoui. C'est un moment de libération pour tous les Français qui étaient très attendus, je cite. Finalement, un vaccin français, Sanofi, pourrait le commercialiser à la fin de l'année. Le laboratoire vient de publier des résultats positifs à l'issue de la phase 2. C'est à l'issue seulement de la phase 3 qu'on pourra connaître son efficacité plus précisément. L'an dernier, en pleine pandémie, les actes de violence contre les personnes LGBT ont augmenté de 13% en famille ou avec les voisins, selon un rapport publié par SOS Homophobie. Et puis dans l'affaire Élodie Kulik, Willy Bardon vient d'être remis en détention. Il aurait fait pression sur un témoin du dossier information à RTL de Frank Hanson. Willy Bardon avait été condamné en décembre 2019 à 30 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration et viol d'Élodie Kulik en janvier 2002. Il était sorti de prison le 25 septembre dans l'attente de son procès en appel. Le temps pour demain, les averses vont rester fréquentes sur le nord-est avec quelques coups de tonnerre. Ce sera plus calme sur le reste du pays avec quand même encore quelques ondées sur la moitié ouest et des belles éclaircies sur le sud-est, toujours accompagné d'un vent sensible. Demain, vos températures, il fera 14 degrés à Brest, 15 à Lille et à Alençon, 16 à Paris et à Castres, 17 à Tarbes, 18 à Montpellier, 19 à Marseille. Les courses à l'hippodrome de Vichy, à l'arrivée provisoire du Quintet, il fallait jouer le 13, le 2, le 11, le 15 et le 4. Vous retrouvez Pascal Praud pour la suite. Des auditeurs ont la parole.
Merci Alexandre. À 14h02, nous continuons avec Bruno qui était avec nous.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Bruno va conclure qui nous appelle de Saumur et qui s'exprimait sur la proposition de François Bayrou, faire plus de bébés en France. C'est vrai que ça peut être compliqué les prochaines années parce qu'on a un modèle de très grande redistribution. Donc on a besoin de gens qui travaillent si on veut continuer de partir à la retraite à 62 ans. C'est un peu ça le sens des propos de François Bayrou.
Bruno. Et je pense que la problématique du 62 ans, après voilà, on est nous-mêmes une population, faisons partie d'une population vieillissante, mais qui vieillit très bien. Et donc dans le coup, avec l'allongement de la durée de la vie, d'avoir un jour bougé le seuil des retraites a été, je pense, une décision un peu déplorable pour le futur. Ça aide pas. Et aussi sur le job de Monsieur Bayrou. On a des institutions françaises qui donnent du conseil à notre gouvernance future, à nos décisions futures, comme la Cour des comptes, par exemple, également. Et vous avez tout un tas d'institutions qui donnent du conseil qui n'a jamais été vraiment suivi par nos politiques. Et on paye des gens gracieusement pour faire des rôles, pour prendre des décisions futures qui sont, en fin de compte, des fois très peu écoutées. Donc, je pense que M. Bayrou, il a pas réinventé l'eau chaude. Hein. On sait clairement que le régime des retraites est que n'est pas viable comme on l'a et qu'il n'y a pas assez de cotisants. Ça, c'est certain.
Mais merci beaucoup, Bruno.
La France est une belle terre d'accueil et qu'elle peut encore recevoir beaucoup de gens.
Voilà. Merci beaucoup Bruno. Nous allons poursuivre évidemment avec cette volonté de faire des enfants ou pas, ou cette nécessité. On est avec Magali. Magali, elle est agent immobilier en Normandie. Je posais tout à l'heure une question très difficile d'ailleurs. Si vous aviez aujourd'hui 25 ans, je demandais ça à Thierry qui était en Charente-Maritime alors qu'il en a 50, est-ce que vous referiez des enfants? Eh bien, je pourrais poser la même question à Magali, même si c'est une question très indiscrète. Bonjour Magali.
Bonjour Pascal, merci de me prendre en ligne.
Je vous en prie.
Eh bien écoutez, mon sang n'a fait qu'un tour quand vous avez posé la question tout à l'heure à l'auditeur précédent, puisque c'est une question que je me suis déjà posée et j'en ai parlé à mon entourage. Je me suis fait pourrir. Pour moi, la réponse, elle est plus qu'évidente. Si j'avais 25 ans aujourd'hui, je ne ferais absolument pas d'enfants. Et j'irais même plus loin, je trouve qu'aujourd'hui, c'est presque criminel de faire des enfants. Alors, j'ai deux enfants que j'aime plus que tout au monde. S'il leur arrivait malheur, je ne sais pas comment je réagirais. Enfin, je me suis déjà dit que je partirais au fin fond de la Micronésie, me terrer dans un endroit. Mais en fait, On vit dans un monde de dingue, à tous les niveaux. Écologiquement parlant, il y a une violence qui est exacerbée, on n'a plus le droit de rien faire, on a des interdictions partout. Voilà, on est dans un monde où on va nous imposer l'écriture inclusive, ou si on n'est pas pro-LGBT, on est dernier des homophobes. Enfin, y a plein de choses qui deviennent lamentables, et nos enfants sont perdus. Alors évidemment, Pascal, vous allez me dire, parce que je pense que vous êtes plutôt un optimiste, je vous écoute et je vous regarde régulièrement, qu'il y a toujours des belles choses. Bien sûr, il y a toujours des belles choses. Mais force est de constater que vous allumez TF1, France 2, France 3, CNews, toutes les chaînes de télévision confondues, français et internationales, moi je regarde beaucoup CNN et tout ça, on n'a pas beaucoup de belles choses qu'on nous montre, et c'est quand même, il y a de quoi être plombé en permanence, quoi.
Magali, est-ce que le monde est plus horrible que lorsque, en 1720, vous naissiez, que vous étiez dans le tiers état jusqu'à la fin de votre vie et que vous ne pouviez pas changer ? Est-ce que le monde est plus terrible que lorsque vous étiez pris à 20 ans et on vous envoyait en Russie sous Napoléon pendant 3 ou 4 ans parce que vous faisiez votre service militaire ? Et les guerres de 14 et les guerres de 40,
d'accord.
C'est,
oui, Pascal,
qu'est-ce que vous voulez ? C'est le monde. Alors, il y a un truc qui a changé quand même. C'est qu'avant, on était 500 millions ou 1 milliard, alors, et maintenant, on est 10 milliards. C'est ça qui change.
Que j'allais vous dire. Il y a 150 ans, on était 1 milliard. Là, on avoisine les 8 milliards d'êtres humains.
Oui.
Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai accouché de mon premier enfant, ces 3 premières semaines de vie ont été un peu difficiles. La pédiatre est venue chez moi. Elle m'a dit une phrase qui, à vie, je m'en souviendrai, hein. Une pédiatre qui a 4 enfants, très catholique et tout ça et tout ça. Elle m'a dit, de toute façon, je ne sais plus pourquoi on parlait, mais elle dit, de toute façon, il faudrait une bonne pandémie parce qu'on est beaucoup trop sur Terre. J'avais été super choquée par ses propos. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'elle n'a pas complètement tort. On est beaucoup trop nombreux. Moi, j'ai un cousin, il a 6 enfants, mais pour moi, c'est lunaire, quoi.
Oui, alors là, on est quand même dans l'exception, le cousin qui a 6 enfants. Mais, moi, je ne connais pas de gens. Dans ma génération, je ne connais pas, par exemple, d'amis ou même de relations qui aient 6 enfants.
Eh bien, moi, j'ai un cousin, il a 40, j'en ai 48, donc il a 47 ans. Oui. Il a 6 enfants, ça va de 19 ans
avec
à
la même femme.
Ah, bien sûr, avec la même femme. Ce sont des gens extrêmement croyants, religieux et tout
ah
ça.
Ah oui, ça, effectivement. C'est
et sa fille de 19 ans va mettre au monde son premier enfant dans 2 mois. Voilà.
Bah écoutez, je trouve que c'est beau d'abord, je trouve que c'est bien, c'est formidable, mais c'est pas fréquent.
Non, mais c'est pas fréquent, mais au-delà de ça, dans quel monde on vit ? Il faut regarder notre monde.
Oui, oui, je suis d'accord, j'ai dit ça en provoque tout à l'heure. On est un peu loin de François Bayrou. On est un peu loin de François Bayrou, mais pourquoi pas ?
Mais quand vous avez dit cette phrase-là, je dis mais évidemment, évidemment.
Alors vous ne referiez pas d'enfant ?
Ah mais je ne referai pas d'enfant.
Mais vous trouvez, mais la vie, vous dites pas quand même que la vie que vous traverseriez serait un peu plus morne, un peu plus triste, sans saveur.
Je ne pense pas. Les enfants sont une source de bonheur incommensurable. Mais si on va faire une case plus moins, je suis pas sûre que le plus l'emporte.
Bon bah
et
merci.
Je parle pas de ma situation.
Bien sûr, j'ai compris que vous. Bien sûr. Non mais c'est vrai que c'est une responsabilité. Je suis d'accord avec vous. C'est une responsabilité de mettre des enfants sur Terre et de savoir que la vie peut être rude ces prochaines années, qu'ils n'auront peut-être pas la chance que nous avons eue, que la vie économique, sociale, écologique, comme vous l'avez dit, pourquoi pas même politique. Bien sûr, ça,
2100,
bien sûr. C'est une question.
Pascal, vous et moi, en 2100, on ne sera plus là.
En 2100, si, moi, j'ai prévu d'être là. J'ai prévu d'être
en
là
2100,
en 2100. En 2100, ouais. Ben, j'aurai 140 ans, en pleine forme. Je serai au mieux. Vous connaissez la ligne verte, le personnage de la ligne verte ?
Bien sûr, tout à fait.
Et ben moi, quand j'étais, comme pour rassurer mes enfants, je leur disais que c'était moi le personnage de la ligne verte. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas, papa, quoi. Il reste là. Avec la petite souris. Je m'appelle John Coffey. La ligne verte, vous connaissez.
Bien sûr.
Formidable, la ligne verte.
C'est magnifique, ce film. Merci.
Mais évidemment. Bon, Magali, je vous embrasse. Et puis, alors, je vais vous dire, on peut. Vous avez eu un enfant qui a eu des problèmes dans les 4 premières semaines de vie.
Aujourd'hui, tu peux être la femme qui est plus grand que moi.
Eh bien, on peut avoir, croyez-moi, des problèmes dans les 4 premières semaines de vie, être baptisé en catastrophe. Et avoir pourquoi pas l'extrême onction et être en pleine forme 57 ans plus
non,
tard.
Non, mais bien sûr, c'est pas le souci, mais bien sûr, mais non.
Salut Magali.
Vous voulez vous confier de nouveau, Pascal ?
Point. Salut Magali, d'accord. Allez-y.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Erwan qui habite Angoulême. Qui...
Bonjour
Erwan. Et vous voulez parler effectivement de François Bayrou, faire plus de bébés en France pour assurer les prochaines générations, assurer évidemment le renouvellement des générations et pourquoi pas aussi assurer les retraites, parce qu'il y a de cela forcément.
Oui, bah alors c'est ce que je disais à votre collaboratrice et ce que les autres, différents auditeurs ont dit. On est sur un bateau qui est en train de prendre, enfin qui est en train de prendre l'eau. On a l'impression que là, à l'heure actuelle, on est sur une planète qui peut pas énormément accueillir plus de personnes. On nous demande de faire plus de bébés, mais c'est d'une aberration totale. Je pense que c'est ce que je disais pour le petit mot arrière. Faut que Monsieur Bayrou arrête de regarder les émissions à la télé sur Famille Nombreuse ou quoi que ce soit. Enfin, c'est d'une aberration totale. Je suis bien placé pour savoir parce qu'en plus de ça, si jamais je dis pas de bêtises, il parlait du fait de pouvoir accueillir des enfants de pays en situation de guerre, quoi que ce soit. Donc c'est un principe d'adoption et ça, je connais très bien le sujet. C'est hyper éprouvant. Ça veut dire qu'il va falloir dire à des personnes, encore une fois, d'attendre 5-6 ans à avoir des enfants. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a une incohérence totale dans l'économie, l'écologie et tout ça actuel. Enfin, je sais pas.
Non, mais je pense que visiblement, il y a une phrase qui a été mal comprise parce que quand il dit accueillir des personnes d'autres pays, c'est si nous ne faisions pas davantage d'enfants, parce que je ne pense pas qu'ils souhaitent davantage d'immigration. On sait bien les difficultés aujourd'hui, d'abord dans l'opinion publique, que ces idées-là passent, et puis la difficulté pour des raisons sociales, culturelles, d'accueillir encore plus de gens dans notre pays. On a du mal, pour tout dire, avec ceux qui sont déjà ici. Alors donner du job, donc c'est pas pour accueillir d'autres gens, a priori.
Non, mais si on parle juste des enfants, donc c'est dans un principe d'adoption, encore une fois. Et le process d'adoption est tellement long, éprouvant, que du coup, cette réflexion-là est d'une illogique totale. Enfin, c'est vraiment... j'arrive pas à comprendre. On n'arrête pas de parler des bateaux, des migrants qui traversent la Méditerranée, qui sont surchargés, il y a des gens qui meurent en tombant dans la flotte, et là, il y a un mec qui se pointe, comme disait votre première, un de vos auditeurs, Monsieur Plan, là, mais qui fait le job qui sert à rien, dire que là, on doit faire encore plus de bébés. Pourquoi? C'est infaisable. Le budget et le temps, qu'on prend maintenant pour un enfant, pour rien qu'un enfant, c'est fou. Quand on sait que même maintenant, pour inscrire un gamin à la crèche, faut limite y penser avant d'avoir l'idée de le concevoir. Rien que ça. Au niveau infrastructure.
Bon, vous avez des enfants, Erwan?
Pas encore.
Et vous avez envie d'en avoir?
Oui, avec ma compagne, on compte en avoir un déjà, juste histoire d'eux. Mais après,
juste histoire d'eux, ça se passe pas comme ça, non? Mais non. Vous savez que parfois, un enfant, c'est pas mal de lui faire un petit frère ou une petite sœur aussi.
Oui, mais ça se voit après. Ouais.
Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, là, vous avez 34 ans. Elle a quel âge, votre compagne?
Elle en a 32.
Bon, généralement, 34-32, vous êtes dans la cible quand même. Hein. Même peut-être statistiquement, je crois que là, une femme a son premier enfant en moyenne à 29 ans, il me semble.
Ouais, mais c'est une deuxième union, donc du coup, voilà. Ça fait,
elle n'avait pas d'enfant avant?
Non.
Bon, donc évidemment, c'est souvent la femme d'ailleurs qui est déclencheur, qui dit « je voudrais un enfant ».
C'est le contraire.
C'est vous qui êtes déclencheur?
Oui, parce que pour le coup, elle, à la base, elle a l'optique de dire clairement faire un gamin, alors que voilà, on est dans cette situation-là, à l'heure actuelle démographique, que ça, c'était. Et puis par rapport à différentes choses. Alors je suis d'accord avec vous par rapport à l'auditrice précédente. On n'est pas en 40, on n'est pas voilà, c'est pas faire un gamin à l'heure actuelle. Faut pas abuser non plus. On ne projette pas dans un monde horrible, mais d'en faire un ou deux, je veux bien, mais. Mais après, derrière, on va pas pousser les gens à faire des gamins comme il n'y a pas pour rien.
Non, mais il faut encourager. Parce que ça veut dire quoi, encourager? Par exemple, dans le temps, il y avait une politique familiale très intéressante. C'est-à-dire que au troisième enfant, par exemple, tu avais, des raisons fiscales, le troisième enfant comptait une part. Premier enfant, une demi-part. Oui. Deuxième enfant, une demi-part. Troisième enfant, une part. Quatrième enfant, une part. Donc, ce qu'on appelle le quotient familial qui permet de diminuer les impôts, qui n'existe pas partout. Hein. Ça n'existe pas en Angleterre, par exemple, ni en Allemagne. Mais ça, c'était encouragé. C'est une politique nataliste qui encourageait les gens à faire des enfants. Ça, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, Erwan.
Oui, c'est pas mal, mais encore une fois, dans ces cas-là, va falloir me dire comment est-ce que, si jamais tout le monde se met à faire trois gamins du jour au lendemain...
Oui, mais on sait bien que tout le monde ne le fera pas. On sait bien que tout le monde ne le fera pas. Bon, Angoulême va rouvrir, en tout cas. Les terrasses vont rouvrir à Angoulême. Vous êtes Bon, bah écoutez, c'est une jolie ville, Angoulême.
Ah, c'est super beau.
C'est la vieille ville, les remparts d'Angoulême.
Le festival de la BD aussi.
Mais bien sûr. Et puis,
on est à proximité de Cognac aussi.
Et il fait très beau en Charente.
Eh ben, je vous garantis...
Pas aujourd'hui d'ailleurs, mais il fait très beau et souvent très chaud.
Ah si, si, si.
Bon.
Ah si, j'ai 19 degrés, un grand ciel bleu.
Et puis on rappelle que c'est là que François Mitterrand a grandi, dans le lycée Saint-Paul.
Eh ben voilà.
Eh ben voilà. Merci beaucoup Erwan.
Mais de rien, bonne journée à vous.
À tout de suite. Ciao, ciao.
Pascal Pro.
Vous avez dit ciao, ciao là. Vous avez dit ciao, ciao.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous allons terminer cette émission en parlant du vaccin avec Francine qui habite Alfortville, puisque c'était un de nos thèmes du jour. Vous savez que il y a 25% des gens qui ont plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinés. Donc je voulais savoir pourquoi. Et Francine est avec nous. Francine ?
Bonjour.
Vous vous souvenez de la petite publicité Francine, jadis? On a dû vous la chanter, ça.
Vous savez, moi, j'étais assureur, et un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Mais c'est pas le nom d'une farine, ça ?» Je lui dis
« Bien sûr, oui.
Ici, monsieur, et je roule tous mes clients dans la farine. »
Mais c'était joli, en plus, ce prénom Francine. Mais moi, je me souviens, c'était dans les années 80 ou 90, c'était avec Francine à gâteau. On fait des bons gâteaux, des bons gâteaux, dorés de tous les côtés. Francine à gâteau.
Tout à fait. Mais vous savez, Francine, c'est après la guerre, parce qu'il y a eu la guerre. Alors, il y avait France, Francine, Françoise.
C'était joli, Francine. Il n'y en a plus de Francine. Alors, Francine, pourquoi vous n'êtes pas vaccinée?
Alors, je vais vous dire. D'abord, au début, le Covid nous est tombé dessus. Il n'y avait pas de vaccin. Bon, le vaccin est arrivé 6 mois après. Bon, je me suis dit, tiens, on va servir de cobaye. Bien. Ensuite, bon, ça passe un petit peu. Et puis, il y a plusieurs vaccins qui arrivent. Alors, il y avait des professeurs, des médecins, des professeurs qui disaient « Oh, c'est bien, ah non, c'est pas bon, machin, etc. » Et puis surtout, alors, le clou, ça a été quand Jean Castex a dit…
Comment vous l'appelez, le Premier ministre ?
Jean Castex, c'est pas ça ?
Oui, presque, mais Jean Castex, oui. J'avais il y avait une petite prononciation qui m'avait amusé, mais vous l'avez bien dit.
Vous savez, je suis parisienne, hein, alors l'accent, je présume que vous avez deviné. Hein.
Non, mais je vous taquine, Francine.
Non, mais c'est pas grave. Donc Jean Castex, un samedi ou un dimanche soir, dans un tweet ou je sais pas trop quoi, mais je l'entends aux informations. Vous savez, pour le fameux vaccin Anaka, je ne sais pas quoi, là. Bien. Et il dit, non, c'est trop dangereux. C'est très bien, vous pouvez y aller en toute confiance. Il n'y a pas de risque. Ce qui se raconte en Angleterre, en Allemagne, etc., c'est des conneries. Bon, enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Bien, le lendemain... notre président de la République, M. Macron, dit « Ah, top, on arrête tout, c'est trop dangereux, interdiction de se faire vacciner, et hop, tous les vaccins à la poubelle. » Et voilà qui pas que, je ne sais pas, la semaine d'après, mais ça n'a pas fait 7 jours, hein. Il y a eu une autre instance, je ne sais pas si c'est l'OMS ou je ne sais pas trop quoi, qui dit « Mais attendez, c'est très bien, on a fait des études, l'ANACA machin, mais c'est formidable, on reprend les vaccinations. » Alors moi, je vais vous dire une chose, au moins, ces gens-là qui se mettent d'accord, notamment, mais le gouvernement...
Nous sommes d'accord, Francine, effectivement, et que cette confusion a parfois créé auprès des uns et des autres des difficultés. C'est le cas avec ce témoignage. Il est 14h23, peut-être que Francine pourra poursuivre demain, mais c'est l'heure du débrief. Le débrief, c'est Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir ce midi au Standard. Faut-il abaisser l'âge de la majorité pénale à 15 ans ? Proposition de Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle. Une idée qui ne plaît pas à Sophie Legrand, juge des enfants et secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
qu'on constate sur la délinquance des mineurs depuis de nombreuses années, c'est qu'elle reste plutôt stable. Un enfant n'a pas la maturité d'un adulte, n'a pas la même construction psychique, et il est normal d'en tenir compte dans la décision qu'on va rendre.
Des propos qui ont fait bondir Raphaël, professeur de droit.
Je suis totalement atterré par les propos de la juge qui a précédemment parlé. J'allais dire qu'il y en a marre de cette psychologie au yaourt qui fait en sorte de surprotéger l'enfant.
Et Raphaël ne s'arrête pas là au 32-10. Il est revenu sur le meurtre vendredi de Magali, 17 ans, à Évry-sur-Seine.
Cet assassin, là, de 14 ans, on va pas me faire croire qu'il avait besoin d'aller prendre un couteau et d'aller régler son compte à une jeune fille. Il l'a fait en pleine conscience. Faut arrêter cette psychologie de bisounours, hein, de ces sociologues un peu gauchos qui sont là pour surprotéger le mineur. À 14-15 ans, ils sont devenus pleinement conscients de ce qu'ils font.
Alors, qui partagera l'avis du syndicat de la magistrature? Tentons un autre auditeur. Oui, Mathéo est étudiant en droit.
Lorsqu'elle dit que la délinquance est la même il y a 30 ans qu'il y a aujourd'hui, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Effectivement, la délinquance, il y a 30 ans, je pense que c'était un vol de mobylette. Peut-être que c'était une bagarre, un échange de coups de poing, une nuit au newf et c'était tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de bagarre. Aujourd'hui, c'est le canif, si c'est pas le pistolet. Aujourd'hui, c'est pas un vol de sac à main, c'est un vol à l'arraché, on va pousser une petite dame dans le métro.
Bon, continuons avec une autre personne. Charles, comment réagissez-vous aux propos de la magistrate?
Le niveau de barbarie a augmenté dans notre société. La violence gratuite a augmenté. La grande maladie de la justice, c'est qu'elle n'est plus dissuasive. Elle est complètement à côté de la plaque, elle est dépassée.
Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, ça ne vous a pas échappé.
C'est lundi.
Et oui, c'est lundi. Comment allez-vous, cher ami Pascal?
Écoutez, oui, ça aurait pu être mieux.
Ah, et que s'est-il passé?
Je ne vous le dirai pas, mais ça aurait pu être mieux. Bon.
Aïe, qu'est pas ça? Toute la rédaction est arrivée.
Vous savez que des personnes sont venues en régie pour nous dire, mais qu'arrive-t-il à Pascal? Pourquoi a-t-il ce coup de mou?
Bah oui, on imagine, notre réalisateur Greg Caranoni a mené l'enquête.
Hors antenne, vous m'avez dit que votre fiancé n'était pas avec vous ce week-end et c'est pour ça que vous étiez un petit peu triste. Ah bah je suis obligé de raconter. Mais rassurez-moi, ça n'a pas de rapport avec le fait que les 10 km soient enlevés et qu'elle soit partie.
Non, il est fort ce Greg Caranoni. Comment pourrions-nous d'ailleurs le définir, cher Pascal?
Monsieur Caranoni, vous êtes.
Ni supporter de football, ni supporter de rugby.
Non, mais vous êtes vous, ce que vous aimez, c'est la trottinette.
Voilà, oui, c'est ça. Voilà, rédigez-moi à la trottinette.
L'homme à la trottinette.
L'homme à la trottinette, notre réalisateur. Sinon, Pascal, nous n'avions pas oublié votre pronostic il y a quelques semaines.
Moi, je vous parie ma chemise que le 15 mai, je ne serai pas dans un restaurant.
Ok ! Les terrasses des restaurants sont toujours fermées. Réouverture le 19 mai. Pascal nous l'avait dit.
Dans un restaurant.
Et aujourd'hui, il y a un événement particulier.
C'est la fête.
La Saint-Pascal, bonne fête amis. Le dicton s'iltonne au jour de Saint-Pascal. Sans grêle, ce n'est pas un mal. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé.
Ciao, ciao.
Et oui, Saint-Pascal oblige, on se quitte avec la chanson d'un autre Pascal que l'on interprète dès que l'on croise Flavie Flamand dans les couloirs.
Je suis tombé pour elle. Je n'ai dit
génial qu'on sera pas dans un restaurant. Hein.
Mais non.
On sera sur en terrasse.
En terrasse.
Hein,
bon. Oh, vous aviez quand même raison.
Non, oh. Mais et on sera mercredi, on sera où nous pour l'ouverture des terrasses?
Dans le 19e arrondissement de Paris.
Bon.
Ça va aller, Pascal? J'espère de partir du studio, du petit confort, être en terrasse, au milieu des vrais gens?
Ça, je sens que c'est une attaque personnelle.
Bah, c'est votre fête, j'en profite.
C'est une attaque personnelle à laquelle je ne répondrai pas. Flavie, à tout de suite.
Ciao, ciao.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.